Panorama économique.
Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Panorama économique sur Radio Capi. Pour commencer, voici les titres. Pour faire revivre les industries vitales en péril en RDC, la loi prévoit notamment des allègements fiscaux et des facilités en matière administrative. Cette loi fixant les conditions de sauvetage a été votée à l'Assemblée nationale. La semaine, nous avons aussi parlé de la saisie en Allemagne des deux cargaisons de bois illégales en provenance de la RDC. Une perte d'environ 100 000 euros pour le gouvernement congolais. 3 millions de dollars américains pour augmenter la capacité de barrage hydroélectrique de Tchiala, nous sommes au Kassai oriental. Un partenariat devra être signé entre l'AMIBA et le gouvernement provincial à ce sujet. Panorama économique de ce samedi reçoit Michel Somoué, il est monétariste. François Kadima devant ce micro pour la présentation de ce numéro de Panorama économique de la semaine.
Panorama économique, le dossier.
Commençons par le premier dossier. L'Assemblée nationale est favorable à la relance des activités des industries vitales en péril. La loi fixant les conditions de sauvetage de ces industries a été votée mardi dernier. Le texte met en place un dispositif de sauvetage afin de parer à toute menace désastreuse de l'industrie congolaise. La finalité étant de lutter contre le chômage et la précarité de la vie, mais également de relancer l'économie nationale, comme nous l'explique ici Mimi Nguma Mulongo.
Il faut entendre par industrie nationale vitale en péril toute industrie nationale dont l'activité exerce des effets d'entraînement au niveau économique et social et dont les difficultés de production pourraient déboucher sur la disparition des activités d'une filière ou carrément la cessation des activités. Parmi elles, le ministère des tutelles a identifié la Gécamine, la CPA, Zaïreta, PLZ, Daipen, Socider et Sotexki pour ne citer que celles-là. En vue d'aider ces dernières à relancer leurs activités, la loi prévoit entre autres des avantages fiscaux et des facilités en matière administrative, financière et d'infrastructure. Mais pour en bénéficier, il faut être sélectionné selon les critères établis par la loi, à savoir être une entité économique de droit congolais, être reconnue comme industrie en péril par le ministère des tutelles après avis conforme de la commission interministérielle d'experts et présenter un programme de sauvetage et de relance de l'entreprise. Mais dans cette sélection, la commission veillera aussi à l'importance des emplois directs et indirects, à l'impact socio-économique de l'industrie, ajouter à cela l'impact des recettes que l'État perd en cas de fermeture.
Mimi Nguma Mulongo. Alors, Michel Somoué, je rappelle que vous êtes monétariste. Êtes-vous avec nous?
Je suis là.
Voilà, vous avez suivi avec nous ce reportage. Des avantages fiscaux pour relancer les industries vitales en péril, parmi lesquels Gécamine et Daipen, et comme finalité lutter contre le chômage et la précarité de la vie, mais également relancer l'économie nationale, donc comme signalé dans ce reportage. Que pensez-vous de cette loi votée au Parlement?
Je pense que le Parlement devrait aller plus loin. Parce que, vous le savez, je pense, François, que j'ai toujours, depuis un temps, plaidé pour une amnistie fiscale préalable. Pendant ne fût-ce qu'une année, pour permettre à l'économie nationale de s'organiser autour d'une industrie, passez-moi le terme, organique. Parce que, de prime abord, lorsqu'on veut construire une économie nationale et qu'on veut la sauver des périls du dumping et de la concurrence internationale dans tous les sens, il faut veiller en priorité à la protection. Un minimum de protectionnisme est incontournable. Et parmi les mesures protectionnistes, à mon avis, je pense que la discrimination devrait aller juste dans le sens d'accorder une amnistie fiscale à l'industrie locale nationale. Mais au-delà de ça, parce que ça, ce n'est pas suffisant non plus. En plus, et le plus important, outre cette industrie ou cette amnistie fiscale, je pense qu'il faudrait réfléchir profondément sur la question relative au financement de l'industrie congolaise. Bref, au financement de l'économie. Et ce financement ne peut pas se concevoir autrement qu'à travers la réorganisation du système bancaire et monétaire, plus précisément. Parce que le socle de toute la finance, de toute l'industrie financière, c'est la monnaie. Ou si vous voulez être plus précis, c'est la banque centrale, qui est la banque des banques, qui est le prêteur en dernier ressort. Et c'est de là que doit venir l'impulsion pour que les industries congolaises reçoivent de l'oxygène dont elles ont besoin en termes de financement, en termes de monnaie, en termes de moyens de paiement, en termes de moyens d'investissement. Et tous ces moyens de paiement, de la monnaie, c'est tout. Les avantages fiscaux, certes, nous en avons besoin. La loi qui accorde des avantages fiscaux à un petit groupe d'entreprises ou d'industries qui seront sélectionnées suivant les critères que vous avez énumérés, je dis qu'elle va être comme un petit, un coup d'épée dans l'eau si les autres conditions nécessaires ne sont pas remplies, notamment la condition monétaire. Et même quand on passe du côté de la condition fiscale, j'estime que quelques avantages fiscaux, je ne les vois pas suffisants tant qu'on n'a pas proclamé ou décrété une amnistie fiscale. C'est une mesure courageuse qu'il faut prendre et laisser l'économie se financer par d'autres moyens que par l'impôt pendant au moins une année. C'est ce que moi je pense qu'il faudrait faire si on a vraiment besoin de doter ce pays d'une économie nationale. Parce que l'économie nationale au Congo, elle est ce qu'elle est, pour ne pas dire elle n'existe véritablement pas. Et vous n'avez qu'à regarder ce que nous consommons. Nous consommons ce que nous ne produisons pas, nous produisons ce que nous ne consommons pas. Alors qu'est-ce qui est véritablement congolais? C'est un problème. Or, l'économie se définit par le marché essentiellement. C'est-à-dire la somme des transactions qui se passent sur le territoire donné à partir de l'offre et de la demande locale et nationale. Nous n'avons pas. Et notre offre, elle est destinée à une demande étrangère. Notre demande, elle est satisfaite par une offre étrangère. Et ça, c'est pas normal. Ça ne donne pas l'image d'une économie nationale. On ne peut pas exister comme ça. Il faut créer une économie nationale. Et pour la créer, il faut donc commencer par le commencement, c'est-à-dire par la condition monétaire.
Voilà, merci Monsieur Michel Nsomwe. Autre sujet de la semaine, deux cargaisons de bois illégales en provenance de la RDC ont été saisies au début de ce mois donc en Allemagne. C'est grâce à l'alerte de Greenpeace que cette opération a été menée par les autorités allemandes. Selon un communiqué de cette ONG, la dite saisie constitue le premier cas donc d'application du nouveau règlement européen sur le bois depuis son entrée en vigueur en mars dernier. Le coordinateur donc national de RDC de Greenpeace parle déjà des manques à gagner pour la RDC avec la sortie de ce bois hors du pays. Écoutez Raoul qui s'est entretenu la semaine avec nous.
C'est du bois wenge. Le bois wenge ne coûte pas moins de 500 euros. Les deux cargaisons qui allaient au-delà de 200 mètres cubes. Et quand vous faites des calculs, c'est beaucoup d'argent, quoi. Et le problème, c'est que c'est de l'argent qui, malheureusement, notre gouvernement ne peut pas récupérer parce que le gouvernement allemand, lors de notre dernier entretien, nous a rassuré que cet argent sera mis dans les trésors publics allemands.
Vous confirmez dans votre communiqué que le bois saisi est du wenge, donc espèce d'arbre tropical en voie de disparition. Il a été enregistré par une société d'exploitation forestière libanaise évoluant en RDC. Est-ce que vous détenez de preuves par rapport à cette information?
Oui, mais nous détenons des preuves parce que le bois est bien noté UBC, Bakri Bois Corporation, qui est en fait une entreprise qui opère dans la région de l'Équateur, dans les territoires d'Ingende.
Alors, pensez-vous que plusieurs entreprises d'exploitation forestière évoluant en RDC sont impliquées dans la fraude du bois? Vous avez dénombré d'autres exploitants illicites dans le pays?
Oui, parler de la fraude, c'est une autre chose. Parler de l'illégalité qui ne peut ne pas être de la fraude, c'est autre chose. C'est-à-dire, il y a des gens qui coupent le bois dans toute illégalité. Ça, c'est devenu monnaie courante et c'est inquiétant que dans un pays comme le nôtre, les gens coupent du bois comme s'ils étaient dans un marché ou dans une plantation qu'ils ont eux-mêmes plantée, ne respectant ni la réglementation en vigueur, ni non plus les règles les plus élémentaires du respect des clauses sociales signées avec les communautés locales. Il se fait qu'actuellement, plusieurs entreprises sont dans le collimateur de cette illégalité et que par cet acte posé par le gouvernement allemand, je crois qu'elles sont avisées pour être plus prudents, parce qu'ils vont vendre le bois partout, mais ils ne pourront pas les vendre en Europe si nous savons que c'est bois illégal. L'Union européenne doit mettre toutes les machines en marche pour qu'aucune charge du bois illégal congolais n'arrive sur les marchés européens.
Merci beaucoup, M. Raoul Monsemboula.
C'est moi qui vous remercie, M. le journaliste.
Voilà, M. Michel Nsomwe, vous avez suivi le coordinateur de Greenpeace pour la RDC, qui nous parle de ces deux cargaisons de bois saisies par les autorités allemandes et beaucoup d'argent perdu par la RDC à entendre. Donc, Monsieur Raoul Monsemboula, votre réaction.
Ce sont des conséquences malheureuses de ce que je venais de dénoncer, l'absence d'une économie nationale, l'absence de l'intégration économique entre l'offre et la demande. Comme je venais de le dire, on produit pour l'exportation et on importe pour consommer. Maintenant, quand vous produisez pour l'exportation, alors que les rapports de force sont ce qu'ils sont, quand ça arrive à l'étranger, on saisit ce qu'on a saisi, et rapport de force jouant, vous avez un manque à gagner. Et ce manque à gagner, il est abondant, il est énorme. Si on allait au-delà du secteur du bois, c'est dans tous les secteurs pratiquement que la RD Congo perd énormément d'argent à défaut d'organiser son économie locale. C'est toute la question qui est la problématique de l'économie nationale à ce niveau-là. Une économie doit commencer par se structurer à l'intérieur et n'exporter que l'excédent. C'est le surplus qu'on exporte. On n'exporte pas l'essentiel. Imaginez ce bois qu'on exporte à l'étranger. Est-ce que nous n'en avons pas besoin dans ce pays pour fabriquer des meubles, pour fabriquer des bois de charpente, tout ce que vous imaginez? Nous en avons besoin nous-mêmes. Pourquoi la RD Congo laisse sortir l'essentiel du bois pour importer ensuite des chaises et des fauteuils fabriqués avec de la poussière de bois, avec des déchets de bois? C'est toute une question, une problématique qu'il faudrait, je pense, examiner profondément quand on débat de la question relative à l'économie nationale.
Est-ce qu'il faudrait revoir le code forestier congolais pour essayer de sécuriser le secteur?
Oui, mais je pense que des mesures sporadiques comme ça, ou plutôt des mesures éparpillées de cette façon, ne seront jamais efficaces. Je pense qu'il faudrait, au contraire, pénétrer le fond de la question relative à l'organisation d'une économie nationale, identifier tous les secteurs économiques avec les différents problèmes qui se posent secteur par secteur, et on prend un ensemble de trains de mesures dans une sorte de matrice commune, et à ce moment-là, on jette les bases des modèles économiques nationaux. Mais si on est ici, on prend des mesures à gauche, c'est ce qu'il appelle, moi, des coups en vrac. Il y a un monsieur qui vous pique à gauche et vous tapez là-bas, ça vous pique sur le dos, vous tapez le dos, mais vous n'avez pas résolu le problème. Et les moussus continueront à vous piquer dans tous les sens. Si vous piquez pas sur la cuisse, ils vont vous piquer dans le dos, et sur le nez, etc. Finalement, c'est vous-même qui vous éparpillez, qui vous dispersez, et vous ne prenez jamais des gestes qui soient efficaces.
Monsieur Michel Nsomo, je rappelle que vous êtes monétariste. Vous commentez avec nous l'actualité économique de la semaine. Troisième sujet de la semaine, au Kasaï oriental, le gouvernement provincial s'engage à intervenir pour la relance de la centrale hydroélectrique de Tchala de la Miba, en vue de faire face à la carence en énergie électrique qui prévaut sur la ville depuis quelques semaines. Un partenariat donc devra être signé cette semaine donc entre la Miba et le gouverneur de province. Un partenariat qui vise à injecter des capitaux frais dans la société NRK qui commercialise le courant en Mbujimayi. Emmanuel Elamejoua Kabedi nous en parle.
Plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement provincial depuis le week-end dernier. Elles visent le renforcement de la capacité du barrage de Tchala. C'est d'abord un montant initial de $50,000 qui est mis à la disposition de NRK pour accélérer les travaux de dépannage sur les machines et remonter la puissance jusqu'à plus de 10 MW. Hier encore, le gouverneur de province a déclaré qu'il faut un partenariat entre la société NRK Énergie du Kasaï, qui a la charge de commercialiser le courant électrique, et les investisseurs locaux qui, selon Goïka Sanji, disponibilise déjà $3 millions. Si tous ces capitaux frais sont versés dans la MIBA à travers la NRK, ceci pourra donner un nouveau souffle à cette entreprise minière. D'abord, avec une capacité énergétique suffisante dans ses installations, la MIBA peut reprendre la production dans ses usines, ce qui aura de l'impact sur le social de ses travailleurs. L'excédent d'énergie électrique sera commercialisé sur l'ensemble de la province et pourra faire des revenus à l'entreprise. Signalons que la centrale hydroélectrique de la MIBA installée à Tchala a une capacité maximale de 18 MW, mais aujourd'hui, on en est seulement à moins de 4 MW. À la base, une panne intervenue sur les machines de la centrale hydroélectrique de la MIBA de Tchala. Emmanuel Elamejoua Kabedi, Mbujimayi, Écho d'économie.
Michel Sommet, alors certaines entreprises minières de l'État ont du mal à produire ou tourner suite au problème de la fourniture du courant électrique. C'est à l'exemple de la MIBA dont on vient de parler. Pensez-vous que c'est avec ce genre de partenariat que ce problème peut être résolu?
Je ne suis pas capable de vous répondre par l'affirmative ou la négative. Mais je note que, d'abord, ce ne sont pas que des entreprises minières qui souffrent de cette insuffisance d'énergie électrique. Vous savez, l'électricité, c'est la condition de l'industrialisation d'un pays. C'est pratiquement toutes les entreprises du Congo qui en pâtissent, y compris les ménages et toutes les agences économiques, donc pour ainsi dire. Donc, et d'autre part, je sais que pour la province du Kassai Oriental, la MIBA a joué par le passé un rôle très important, mais je voudrais quand même attirer l'attention du gouvernement provincial qu'il ne faut pas rester cabré sur un cadavre si on n'arrive pas à le réanimer. Je pense qu'il n'y a pas que le diamant pour développer le Kassai Oriental. Je ne dis pas qu'il faut abandonner la MIBA, mais je pense que des initiatives devraient aller dans tous les sens du potentiel de développement que la province du Kassai Oriental regorge. Au-delà de la MIBA, la province du Kassai Oriental est un grenier agricole important. Je voudrais qu'une attention plus éveillée puisse regarder les autres secteurs et se départir un tout petit peu de cette nostalgie de l'éternel MIBA. La MIBA, plutôt le diamant, c'est un produit épuisable, c'est normal. Je crois qu'il faut le développement n'est plus ça. Le développement, juste de plus en plus l'intelligence que la matière première comme le diamant et autres. Je crois qu'il y a des pays comme le Luxembourg qui n'ont aucun carré de diamant sur le sol, qui sont en train de développer. L'Inde, qui est pratiquement l'un des principaux exportateurs du diamant à travers le monde, n'a aucun carré de diamant sur son sol aujourd'hui. Donc c'est... Je crois qu'il faut se départir de cette vieille mémoire d'une MIBA qui ne se réveille pas. Et penser développer la province avec des initiatives nouvelles. Ça, c'est un peu mon point de vue. Je ne crache pas sur la MIBA, mais je dis qu'on a beaucoup d'atouts pour développer la province du Kassai Oriental, mais pour ne pas être cantonné sur la seule MIBA.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Autre information de la semaine, en bref, au Sénat, une question orale a été adressée lundi au ministre délégué aux Finances sur la structure de la dotation conventionnelle et la provision du coût d'abandon de Perenco. Selon l'auteur de la question, ces fonds qui s'élèvent à 88 millions de dollars doivent être transférés à la Banque centrale pour une gestion efficiente dans la dépollution donc de la cité, mais aussi dans les actions sociales en faveur de la population. Une recommandation partagée par le ministre des Finances. Patrice Kitebi a promis par ailleurs l'examen de ce dossier au niveau du gouvernement. Pour rappel, il y a quelques jours, la commission environnement du Sénat avait stigmatisé la gestion environnementale à Moanda suite à l'exploitation pétrolière par la société Perenco. Province orientale, plus de 80% des recettes de deuxième compte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits par la direction provinciale ont été recouvrés à deux jours de l'expiration de l'échéance. Le directeur provincial de la DGI, Kuledi, ajoute que la longue distance entre les contribuables et les inspecteurs qualifiés de la DGI chargés de l'encadrement des assujettis pose encore problème. Le taux d'échange est une variable explicative de la politique monétaire. C'est ce qui a été démontré lors de la présentation, c'était jeudi à Kinshasa, des résultats de deux études menées par les experts de la Banque centrale du Congo. L'une a porté sur l'estimation de la demande de la monnaie pour l'économie congolaise et l'autre sur l'estimation de la règle des Taylor et mécanisme d'ajustement du taux directeur de la Banque centrale. Selon le directeur général en charge de la politique monétaire de la Banque centrale du Congo, son institution tient au maintien de l'équilibre de l'offre et de la demande de la monnaie pour éviter toute inflation. En Ituri, des importateurs de produits brassicoles protestent contre la hausse du taux d'importation de marchandises à la douane. Pour un casier de bière importé de l'Ouganda, il faut désormais payer 10 dollars américains au lieu de 4, soit une augmentation des 60%. Ces importateurs en colère ont paralysé toutes les activités au poste douanier de Mahagui. La DGDA indique que cette hausse du taux à l'importation de la bière est la réponse à une demande du gouverneur de la province orientale qui tient à protéger les produits de la Bralima d'une concurrence déloyale. Voilà, Michel Somoué et moi placés sur l'une ou l'autre actualité de tout à l'heure.
François, on va être présenté comme monétariste. Je suis séduit par, déformé par ma science. En termes d'autorité, je voudrais revenir un tout petit peu sur la question de la monnaie. Parce que vous avez fait allusion à la déclaration soi-disant ou à la conclusion d'une étude de la Banque centrale qui prétend que la Banque centrale, sa politique monétaire, doit veiller à l'équilibre entre l'offre et la demande de la monnaie. Mais je ne sais pas si la Banque centrale a une estimation correcte de la demande de la monnaie dans ce pays. Moi, je constate que le franc congolais ne représente même pas, je choisis les mots, ne représente même pas 1% de la masse monétaire demandée par l'économie nationale. La preuve, c'est que l'économie est entièrement dollarisée et quand on parle officiellement de la dollarisation, on se réfère uniquement aux dépôts en devises. Mais si on doit, en se référant aux seuls dépôts en devises, on est déjà à près de 90% du taux de dollarisation de l'économie nationale. Or, le plus important, ce ne sont pas des dépôts en devises, c'est la circulation fiduciaire, c'est-à-dire les billets qui circulent en termes de les billets libellés en dollars américains, qui circulent dans ce pays, qui sont surabondants sur le territoire national. Alors, quelle est la politique monétaire que la Banque centrale peut appliquer qui puisse avoir un impact dans ce pays lorsqu'elle n'atteint même pas 1% de la masse monétaire, la monnaie gérée par la Banque centrale? C'est un problème. La Banque centrale doit être sérieuse, à mon humble avis, lorsqu'elle parle de l'équilibre entre l'offre et la demande. Il me semble qu'elle ne maîtrise même pas les paramètres de détermination de la demande. Il me semble aussi que son modèle d'offre de la monnaie est un modèle d'un hasard scandaleux. Donc, c'est-à-dire une fonction d'offre calamiteuse de la monnaie qui ne répond nullement au moindre besoin de l'économie nationale. Donc, de forfait sur forfait qui ne signifie absolument rien, sinon l'absence pure et simple d'une monnaie nationale. Et enfin, je voudrais dire une chose. Parler de l'offre de la demande de la monnaie suppose que la Banque centrale a été capable, tant soit peu, d'organiser un seul segment du marché monétaire. Elle n'en a pas, au vrai sens du terme. Parce que tout le monde sait que le marché monétaire fonctionne avec des opérations dites d'open market. Dans tous les pays du monde, le marché monétaire, c'est l'open market qui fonctionne. Mais dans notre pays, l'open market, la Banque centrale nous le promet depuis près d'une décennie. Jusqu'aujourd'hui, on n'a toujours pas encore lancé des opérations d'open market. La Banque centrale prétendait pouvoir les lancer en 2010. 4 ans plus tôt, elle disait en 2010, on va lancer l'open market. Ça ne s'est jamais fait jusqu'à ce jour. Donc il y a des problèmes pour l'organisation du marché monétaire. Il y a des problèmes sérieux concernant la politique monétaire. Il faut que la Banque centrale soit sérieuse quand elle parle des choses qui détermine le destin de tout un peuple et savoir reconnaître que les insuffisances de ce genre nuisent à la santé de l'économie et au bien-être de la population.
C'est des études menées par les experts de la Banque centrale du Congo ont été soumises, étalées pour que les suggestions soient apportées, tout ça dans l'objectif de la maîtrise de la monnaie.
Et je chercherai ces études et je pourrai y réagir le moment opportun. Je ferai par une étude aussi, de la même façon, et je publierai dans la presse.
Avant de finir notre émission, nous allons parler de vous. Vous avez mené une étude par rapport à la monnaie, le franc congolais.
J'ai mené plusieurs études sur le franc congolais. D'abord, j'ai publié un livre intitulé « La gangrène de l'économie congolaise » avec comme sous-titre « Monnaie, marché et mondialisation ». J'ai démontré dans ce livre que l'incurie de la Banque centrale en matière de gestion de la politique monétaire et en matière de gestion de ses propres ressources humaines et financières et matérielles y compris bien entendu pose un sérieux problème à l'économie nationale. Nous sommes privés d'une économie nationale à cause justement de l'incurie de la Banque centrale et qui fonctionne en réalité comme une véritable gangrène pour cette économie. C'est donc l'absence d'une monnaie viable qui fait que, au lieu d'être une monnaie, le franc congolais est devenu un virus pour l'économie nationale et donc détruit toutes les initiatives possibles nécessaires pour la création, notamment de la classe moyenne et d'une économie nationale structurée. Ça, c'est de la gangrène de l'économie monétaire. la dernière des économies congolaises. J'ai publié, je n'ai pas publié, j'ai soutenu un mémoire donné à l'Université de Kinshasa sous l'intitulé la Banque Centrale du Congo, les dilemmes de la Banque Centrale du Congo, entropie, inflation. Pour dire que la Banque Centrale du Congo, elle est dans une situation trop délicate à cause de ses insuffisances, excusez-moi le terme, de ses insuffisances théoriques sur la monnaie. Par exemple, quand nous analysons les différents axes de la politique monétaire, les principes qui régissent l'émission de la monnaie ou les principes qui régissent la politique de crédit ou même de la gestion des échanges, vous trouverez que pour la Banque centrale, c'est des trucs qui n'ont plus de contenu économique. C'est des trucs qui sont dépassés, qui remontent à des siècles, même bien longtemps avant Jean Baudin, qui avait écrit au 16e siècle. C'est des choses qui sont désuètes complètement et sur lesquelles nous marchons. Quand la Banque centrale prend une politique monétaire, c'est du simple mimétisme béat et qui ne tient pas compte de la réalité de notre société congolaise. Ça nous pose un problème. Et donc, la banque est dans une situation telle que si elle essaye de se déployer pour déclencher des mesures de politique monétaire, elle nous embarque soit dans l'inflation, soit dans l'entropie, dans le désordre total. Et de toutes les façons, quand elle n'émet pas de la monnaie, c'est l'entropie. Quand elle en émet, c'est de l'inflation. Alors il y a un problème à ce niveau qui n'est pas à trouver dans l'activité d'émission monétaire ou dans le fonctionnement, mais dans la gestion propre de la Banque centrale, dans sa compréhension des mécanismes monétaires, dans son interprétation de la théorie monétaire, qui font que dans notre pays, on est sacrifié comme ça dans une sorte de dilemme. Si tu bouges, tu meurs, tu bouges pas, tu meurs. Voilà l'économie congolaise. Ça, c'est la deuxième étude que j'ai menée, sans compter des petites publications que j'ai faites dans les journaux, des émissions que je fais à la télévision, où je stigmatise toujours, principalement, des phénomènes scandaleux d'ailleurs comme la dollarisation de l'économie nationale, comme les taux d'usure que nous subissons en matière de politique de crédit. Et nous sommes le pays où le taux d'intérêt est le plus cher du monde. C'est scandaleux, on n'en parle pas. Nous sommes le seul pays où le taux directeur est au-dessus des taux que les banques utilisent pour se prêter de l'argent entre elles. C'est scandaleux. Alors en quoi ce taux est-il directeur si les banques ne le suivent pas? Et quand bien même on devait l'accepter comme taux directeur, mais mesurer l'écart entre ce taux qui est aujourd'hui 2% et le taux auquel les banques nous prêtent de l'argent allant jusqu'à 30% là. C'est scandaleux dans un pays où nous avons une banque centrale qui est supposée gérer la politique monétaire. J'ai beaucoup parlé même de francs congolais en démontrant que malheureusement le franc congolais, qui est notre monnaie nationale en principe, n'a malheureusement ni les propriétés d'une monnaie ni n'assume les fonctions monétaires non plus telles que c'est connu à travers toutes les économies du monde. Et c'est un problème pour lequel j'ai toujours appelé le débat et en appelant aussi à la nécessité de restructurer la Banque centrale et de revisiter de fond en comble la politique monétaire.
Monsieur Michel Somouet, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce numéro de Panorama économique de ce samedi. Je rappelle que vous êtes monétariste. C'est la fin de cette émission Panorama économique, ce magazine donc. François Kadima était à la présentation sous la supervision de Nicole Ngaka. Merci de nous avoir suivis.